L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 20 septembre 1973. L'horloge de l'astrodome de Houston, la huitième merveille du monde, comme le surnomment les Texans, indique 20h17. Le tout nouveau stade est plein à craquer en ce jeudi de septembre. Les 30 000 spectateurs et spectatrices retiennent leur souffle. Dans quelques secondes, l'actuel numéro 1 mondial du tennis, Billie Jean King, s'apprête à servir pour gagner le prochain jeu et, par conséquent, le set et le match. De l'autre côté du filet, prêt à recevoir le service, son adversaire joue gros. S'il perd ce point, il ne perd pas qu'un match, mais une bataille. La bataille des sexes. 20h17, l'heure H de mon récit. L'adversaire de Billie Jean King en ce 20 septembre 1973 n'est pas une tenniswoman, mais bien un homme de 25 ans son aîné. Si les deux s'affrontent aujourd'hui à l'Astrodome de Houston, c'est pour défendre une vision du sport et, plus généralement, de la société. En réalité, tout a commencé quelques mois plus tôt, en mars de l'année 1973. Sur le plateau d'une émission de télévision populaire américaine, le présentateur annonce son invité, une ancienne gloire du tennis états-unien, Bobby Riggs. Va s'en suivre une interview d'une vingtaine de minutes avec l'ancien tennisman. Riggs est un homme de 55 ans, d'1m70, plutôt fringant et dynamique, l'œil vif derrière ses grosses lunettes et des rouflaquettes le long de sa mâchoire saillante. L'ancien tennisman n'a pas sa langue en poche. Depuis qu'il a pris sa retraite, il est connu pour arpenter les plateaux de télévision, donnant volontiers son opinion sur l'actualité du tennis et sur son évolution depuis les 20 dernières années. Il faut dire que Bobby Riggs n'est pas n'importe qui. Cet ancien publicitaire californien est né en 1918 à Los Angeles. Précoce, il commence les tournois de tennis à l'âge de 16 ans. Après avoir exercé son métier de publicitaire pendant quelques années, Riggs se remet à sa passion pour le tennis. Jeune prodige, il n'aura que peu de mal à accéder rapidement au haut niveau. Il ira jusqu'à remporter en 1938 la prestigieuse Coupe Davis avec les États-Unis. Ensuite, tout ira très vite pour lui. Un titre de Wimbledon en 1939, une victoire au Grand Chelem de New York et finalement, à la fin de l'année 1939, la place tant convoitée de numéro 1 mondial. Malheureusement pour Riggs, la Seconde Guerre mondiale mettra un terme anticipé à sa série de victoires. Après la guerre, le Californien continuera quelques années la compétition. Il gagnera même quelques tournois avant d'entamer, à partir de l'année 1948, un long déclin qui s'achèvera par la décision de se retirer du tennis en 1952. L'homme occupe son temps entre les tournois d'exhibition, les casinos et les plateaux de télévision. Mais revenons précisément à ce mois de mars 1973, lorsqu'il est invité dans un talk show du dimanche après-midi sur NBC. Après lui avoir fait raconter un peu son actualité, le présentateur demande à Riggs de s'exprimer sur l'évolution du tennis moderne et notamment sur la féminisation du sport professionnel. En effet, depuis la fin des années 1960, certaines femmes se sont élevées contre le sexisme qui régnait dans le domaine du tennis et, plus généralement, dans la société. En tête de proue de ces revendications, la numéro 1 mondiale de l'époque est une des tenniswomen les plus douées de sa génération, Billie Jean King. Au-delà d'avoir été chantée par Michael Jackson, Billie Jean est d'abord l'une des plus grandes joueuses de tennis de l'histoire, vainqueur de 129 titres en simple, dont 12 titres du Grand Chelem. À titre de comparaison, même le grand Björn Borg, légende du tennis, n'en remportera au cours de toute sa carrière que 11. Billie Jean détient d'ailleurs encore le record de victoires à Wimbledon, avec 20 trophées au total en simple, double dame et mixte. Toujours est-il qu'au début des années 70, Billie Jean multiplie les interventions dans les médias pour pointer du doigt les inégalités entre les hommes et les femmes qui persistent dans le tennis. Après avoir remporté l'US Open en 1972, elle reçoit 15 000 dollars de moins que le champion du tournoi masculin. Elle déclare alors qu'elle ne participera au tournoi de l'année suivante qu'après avoir été assurée qu'elle toucherait un gain égal à son homologue homme. C'est d'ailleurs ainsi que l'US Open est devenu en 1973 le premier tournoi à offrir des prix égaux pour les hommes et les femmes. Quelques mois plus tôt, Billie Jean a également participé à la création de la Women's Tennis Association, qui organise encore aujourd'hui les principales compétitions de tennis pour les femmes. Interrogée donc sur ces revendications qui bousculent le monde du sport, l'ancienne gloire du tennis, Bobby Riggs, répond avec sarcasme en s'adressant au présentateur de l'émission. « Je vais vous dire, mon cher, pour moi la place des femmes est à deux endroits, dans la cuisine et la chambre à coucher », s'exclame-t-il dans un éclat de rire. Bon, il faut dire que Riggs n'est pas réputé pour être un être progressiste sur la question de l'égalité homme-femme. Déjà interrogé sur ce sujet quelques années plus tôt, il avait déclaré que pour lui, le tennis féminin n'était ni plus ni moins qu'un sous-sport qui n'avait rien à voir avec son équivalent pratiqué par les hommes. Mais vous ne pensez tout de même pas que les tenniswomen sont des athlètes et qu'elles ne méritent pas une rémunération, si ce n'est égale à celle des hommes, au moins plus élevée ? Lui rétorque le présentateur de l'émission avec un air sarcastique. « Pensez-vous ? » s'exclame Riggs. Prenez un exemple. Vous mettez sur un court de tennis une de ces prétendues tenniswomen, même la meilleure si vous voulez. Et en face, imaginez un homme, un amateur qui pratique le tennis dans un club privé le dimanche avec son beau-frère. Eh bien, vous verrez que si vous les faites s'affronter, dans 100% des cas, ce sera l'homme qui l'emportera. C'est une question de force physique, d'athlétisme, de technique. Depuis des millénaires, les hommes sont conditionnés pour le sport de haut niveau, c'est biologique. Il n'y a aucune raison qu'on paye plus des bonnes femmes pour faire ce que font les hommes en moins bien. Sur le plateau de l'émission, les déclarations de l'ancien joueur provoquent des réactions contrastées. Quelques types éclatent de rire, amusés par la provocation de Riggs, tandis que d'autres restent perplexes, abasourdis par ce qu'ils viennent d'entendre. « Pour appuyer ce que je viens de vous dire, » reprend Bobby Riggs, « je vais vous le prouver. » L'auditoire retient alors son souffle. « Je défie cette potiche hystérique qui fanfaronne dans les médias sur les prétendues inégalités de salaire. Je la défie en 2-7 gagnants. Elle pourra même choisir la surface. Si elle ne peut pas battre un vieil homme fatigué, alors elle ne mérite même pas la moitié de ce qu'elle gagne. » Et vous verrez qu'elle perdra. Je suis même prêt à lui laisser 2 jeux d'avance pour commencer, lance-t-il dans un éclat de rire. Oh, la salle est hilare. Le numéro du vieux tennisman fonctionne à merveille au milieu de cette assemblée encore empreinte d'un sexisme omniprésent chez les hommes des années 70, à une époque où les femmes ne pouvaient toujours pas obtenir de carte de crédit sans la signature d'un homme. Il est l'heure pour nous de rendre l'antenne, le défi est donc lancé, s'extasie alors le présentateur qui sent bien qu'il tient là une annonce qui fera du bruit dans les prochaines semaines au sein des médias. Et force est de constater que le présentateur n'a pas tort. Dès le lendemain, la sphère publique n'a plus qu'une question à la bouche. Billie Jean va-t-elle accepter ? Certaines unes de quotidiens américains s'en donnent déjà à cœur joie. La chef de la meute de la révolution sexuelle contre le roi des machos, titre-t-il. Très vite, les médias commencent à faire monter la sauce et l'on dégote un promoteur pour la partie. Le ou la gagnante de cet affrontement touchera 10 000 dollars, une somme considérable pour un match d'exhibition à l'époque. Mais pour qu'il y ait gagnant, il faut qu'il y ait adversaire. Et quelques jours après le défi de Riggs, la principale intéressée se fait toujours discrète. En réalité, Billie Jean a suivi de très près cette affaire. Elle connaît très bien Riggs et ses déclarations sexistes. Elle a même envisagé l'idée d'accepter, faire taire ce vieux mufle et, en prime, empocher 10 000 dollars. La proposition est alléchante. Mais elle ne mord pas à l'hameçon. Elle sait qu'elle joue trop gros. Elle a conscience de ce qui est en jeu. S'il lui arrivait de perdre, sa cause serait perdue elle aussi. Les risques sont trop élevés. Elle fait donc le choix de ne pas relever le défi que lui lance le tennisman retraité. Et notre histoire aurait tout à fait pu en rester là. Seulement voilà, cette idée d'un match d'exhibition entre un homme et une femme ne laisse pas toutes les joueuses indifférentes, surtout lorsque 10 000 dollars sont en jeu. Il faut donc attendre deux grosses semaines pour qu'une déclaration fasse trembler le monde du sport et l'Amérique tout entière. Si la numéro 1 mondiale n'accepte pas le défi lancé par Bobby Riggs, sa dauphine, elle, affrontera l'ancienne gloire du tennis. En 1973, le rang de numéro 2 mondial est occupé par une certaine Margaret Smith Court. Court est née en 1942 en Australie et arbore un palmarès sensationnel. L'Australienne a été numéro 1 mondial auparavant. Elle a même remporté, 3 ans plus tôt, tous les tournois du Grand Chelem la même année, une performance hors du commun. Avec sa grande envergure et son excellente qualité de déplacement, Margaret Court est une spécialiste du service volley qu'elle maîtrise à la perfection. Dotée d'une force exceptionnelle, elle ne fait en général qu'une bouchée de ses concurrentes. Toujours est-il que Court, au contraire de Billie Jean, n'a jamais particulièrement revendiqué son engagement dans la lutte pour l'égalité homme-femme. Chrétienne évangélique, elle s'illustrera au contraire dans la suite de sa carrière par quelques dérapages sexistes et homophobes. En ce mois de mars 1973, l'Australienne s'intéresse plutôt aux 10 000 dollars promis en cas de victoire. Confiante dans son jeu, en pleine réussite depuis quelques mois, elle fait savoir à Riggs qu'elle est intéressée. Elle négociera même les tarifs de la dotation à la hausse afin de pouvoir toucher 6 000 dollars supplémentaires. Non mécontent d'avoir enfin trouvé une adversaire, le vieux tennisman sait qu'il doit maintenant continuer à faire du buzz autour de l'affrontement. Plus les téléspectateurs sont nombreux derrière leur poste, plus les sponsors seront prêts à faire grimper ses honoraires. En réalité, l'acharnement de Riggs à vouloir battre une femme sur un court de tennis ne tient pas qu'à sa misogynie. Une autre motivation se cache secrètement derrière les velléités du retraité. Depuis qu'il a arrêté de pratiquer le tennis, Riggs occupe la plupart de son temps à traîner dans les casinos. Il y passe au moins 4 soirs par semaine et une bonne partie de la rémunération de ses matchs d'exhibition y passe. Au point que depuis quelques années, il a pris l'habitude de mettre en jeu certains de ses vieux trophées lorsqu'il se retrouve à sec à la fin d'une soirée. Lorsqu'il n'est pas dans les casinos, le quinquagénaire traîne dans les soirées poker de Los Angeles où il joue parfois jusqu'au bout de la nuit. À force, il a fini par s'endetter auprès de créanciers afin de pouvoir continuer à assouvir son addiction. Seulement, ses créanciers ne sont pas tous des tendres et Riggs commence à accumuler les dettes auprès de certains leaders de la pègre californienne. Début mars, 5 hommes ont même pénétré chez lui au petit matin et l'ont tiré du lit. L'un d'entre eux lui a placé un couteau sous la gorge. « Si t'as pas remboursé tout ce que tu nous dois à la fin du mois, Bobby, chaque jour de retard qui passera te coûtera une phalange », lui avait-il asséné. Riggs sait qu'il n'a aucun moyen de rembourser les mafieux grâce au jeu. En effet, il s'est fait petit à petit bannir de la plupart des casinos de Los Angeles et il n'a presque plus un sou pour rentrer dans les soirées poker. Aucun match de gala ne lui rapportera assez pour rembourser l'intégralité de ses dettes. C'est alors qu'il a l'idée d'un super match d'exhibition. Il sait que ce n'est pas grâce à son nom qu'il attirera les sponsors. Il a beau être une ancienne gloire, sa notoriété n'est aujourd'hui plus d'actualité. Il doit penser plus grand, ne pas se limiter à sa personne ou au nom de son adversaire, mais mettre en scène un débat d'actualité, un phénomène sociétal. Évidemment, Margaret Court n'a pas la notoriété de Billie Jean, mais il se dit qu'avec la tenniswoman australienne, il réussira à attirer la numéro une mondiale et à la faire tomber dans son piège. Mais les problèmes de Riggs ne s'arrêtent pas à ses dettes. Il subit également les pressions de Priscilla, sa femme. Cette dernière n'apprécie pas beaucoup les excès de son mari et particulièrement ses nuits passées dehors, à parier et à dilapider l'argent du ménage. Un jour, Bobby rentre à l'aube complètement sous et ruiné. Et le lendemain, il lui rapporte une bague de 18 carats certifiée de rubis qu'il a gagnée au poker la veille. Quand elle apprend pour le match contre Margaret Court, Priscilla a tout de suite voulu mettre les choses au clair. S'il dispute cette partie, il ne remet plus les pieds dans la maison. Seulement, le Californien ne peut désormais plus reculer. Le lieu de la rencontre a déjà été trouvé et la date est fixée au 13 mai prochain.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de la bataille des sexes que mène Bobby Riggs, un tennisman retraité, pour prouver que les femmes n'ont pas leur place sur un court de tennis. N'ayant pas réussi à convaincre la numéro 1 mondiale, Billie Jean King, de l'affronter, Riggs s'est rabattu sur sa dauphine, une Australienne du nom de Margaret Court, qu'il s'apprête à défier sur le court. Le 13 mai 1973, 5000 spectateurs et spectatrices sont réunis à Ramona, grande banlieue de San Diego en Californie, pour assister à l'affrontement Court-Riggs. À vrai dire, la date n'est pas tout à fait choisie au hasard. Le 13 mai étant la veille de la fête des mères qui se déroule le 14 aux États-Unis. Si Riggs a choisi cette date symbolique, c'est pour prouver à l'Amérique que si l'on célèbre les mères, c'est bien pour leur rôle de femmes au foyer dévouées à leurs maris et leurs enfants, et non pour leur ambition de sportive de haut niveau. Au moment d'entrer sur le court, le quinquagénaire apporte à son adversaire australienne un bouquet de fleurs qu'il lui offre en guise de provocation. En interview d'avant-match, il déclare même ceci. Pour Margaret, c'est probablement le match le plus important de sa carrière. Imaginez combien de femmes comptent sur elle. Ces provocations n'ont que peu d'effet sur Margaret Court, qui a gagné la majorité des tournois auxquels elle a participé cette année et qui, par conséquent, a confiance dans son jeu. Dans quelques instants, la partie va enfin pouvoir commencer. À quelques centaines de kilomètres de Ramona, derrière son poste de télévision, Billie Jean King est particulièrement tendue. Elle sait qu'une partie de la bataille qu'elle mène depuis plusieurs années se joue maintenant. Si Court venait à s'incliner, la crédibilité du tennis féminin prendrait un sérieux coup. Seulement, derrière l'arrogance de Riggs, se cache un homme surpréparé. Même s'il donne l'impression de prendre le match à la légère, l'ancien tennisman a en réalité suivi une préparation de haut niveau depuis 2 mois. Accompagné par un coach personnel, il s'est entraîné 6 heures par jour. Il a aussi analysé le jeu de la deuxième mondiale pour pouvoir la piéger. Et cette préparation va porter ses fruits. Riggs fait tout pour ébranler la concentration de l'Australienne. Il déroule une compilation de coups foireux, slice, Lob amorti. Il ne donne aucun rythme et Court ne sait pas quoi faire de la balle. Le quinquagénaire empoche les trois premiers jeux en ne lâchant que 4 points. La joueuse australienne est perturbée et sa confiance commence à prendre un sérieux coup. Au service, habituellement son arme numéro 1, elle envoie la majorité des balles hors du court ou dans le filet. De l'autre côté, Griggs fanfaronne, amuse le public avec des imitations outrancières des femmes joueuses de tennis. Le Californien pousse des cris exagérés et multiplie les mimiques obscènes. Margaret Court ne parvient pas à rassembler ses esprits. Elle donne point après point, se sentant humiliée par l'attitude de Riggs. N'étant plus que l'ombre d'elle-même, elle s'incline 6-2, 6-1. Riggs exulte. Il saute le filet pour aller serrer la main de Court, puis se dirige vers les gradins pour haranguer la foule. « Je suis le champion du tennis féminin !» lance-t-il devant les caméras de télévision. « Une numéro 2 mondiale n'est même pas capable de battre un gars avec un pied dans la tombe !» ironise-t-il. Directement, les commentateurs de CBS, la chaîne qui retransmet la rencontre, rebaptisent le match le massacre de la fête des mères. Immédiatement, Riggs est invité par les commentateurs à venir débriefer la rencontre. Et ses provocations ne vont pas s'arrêter là. Le retraité est survolté. Il attrape le micro de l'intervieweur avant même que celui-ci ait le temps de lui poser une question. « Ne me sous-estimez jamais. Maintenant, je veux absolument King. Je l'affronterai sur terre, sur gazon, sur ciment, sur marbre ou sur des pâtes à roulettes. Cette lutte des sexes doit continuer. Je suis un spécialiste des femmes à présent. » L'intervieweur jubile et demande. « Est-ce que cela signifie, Monsieur Riggs, que vous allez continuer à affronter des femmes sur des cours de tennis ?» Et Riggs de s'exclamer « Une fois que j'aurai battu la numéro 1 mondiale, il n'y aura plus de débat possible sur la prétendue égalité entre les hommes et les femmes dans le sport. Je vais les faire taire, et le meilleur moyen de faire taire une femme est de la mettre enceinte ou de la laisser pieds nus sur un court. » « Vous semblez être en croisade contre le tennis féminin, Bobby ?» lui rétorque le commentateur. « Moi, je suis pas en croisade seul, c'est une guerre, et il me reste une bataille à gagner, la bataille des sexes !» lance Riggs. Cette dernière phrase, déclarée à l'emporte-pièce par le quinquagénaire, et dès le lendemain réutilisée à la une des grands journaux américains. Riggs versus King. Battle of the Sexes. Et une nouvelle fois, Billie Jean King est défiée par l'ancien numéro 1 mondial. Et une nouvelle fois, l'Amérique n'a qu'une question à la bouche. Va-t-elle accepter ? Mais cette fois-ci, tout est différent pour la sportive californienne. En effet, maintenant que Margaret Court est tombée dans le piège de Riggs, elle n'a plus le choix. Si elle refuse, le grand public considérera ça comme un aveu de faiblesse, la peur de perdre de la même façon que sa dauphine. Pire, si elle perd, le tennis féminin sera discrédité et tous les combats qu'elle a menés depuis plusieurs années en faveur d'une plus grande égalité sur le circuit tomberont à plat. Billie Jean n'a qu'une seule option, jouer ce match contre Bobby Riggs et lui faire manger la termature. Quelques jours plus tard, King fait savoir qu'elle donnera une conférence de presse pour annoncer sa décision. Lors de cette conférence, elle déclare aux journalistes qu'elle accepte la « bataille des sexes » contre Bobby Riggs, mais à une seule condition. Le match ne se jouera pas en 2-7, comme celui entre Court et Riggs, mais bien en 3-7 gagnants. La numéro 1 mondiale explique que si Riggs veut se frotter au tennis féminin, elle en fera de même en jouant dans les mêmes conditions que ses homologues masculins. Billie Jean King est immédiatement fustigée par les questions de la presse. « N'avez-vous pas peur de vous exposer à une défaite ? En cas de victoire de Bobby Riggs, est-ce que vous allez prendre la décision de mettre fin à votre carrière ?» Je suis complètement confiante. » leur répond calmement Billie Jean. « Je n'envisage pas la possibilité de perdre. Je pense que Margaret a été déstabilisée par le caractère médiatique de la rencontre, mais qu'elle était tout à fait en capacité de gagner ce match. C'est pour rétablir la vérité sur le tennis féminin que j'accepte ce match. Si l'on se fait battre par un vieux, les gens n'iront plus jamais voir des femmes jouer. Mais Bobby Riggs semble aussi confiant si on s'en tient à ses propos, » lui rétorque le journaliste. Il peut continuer à parler, c'est bien son seul talent, lance la championne de tennis. Au-delà d'un match, c'est surtout une bataille médiatique qui s'organise. Riggs continue de fanfaronner sur les plateaux de télévision et dans la presse, sur la prétendue supériorité des hommes dans le sport en général. En réalité, si le tennisman retraité multiplie ce genre de déclarations, c'est surtout pour faire monter la sauce autour de ce match. Il sait que plus le stade sera plein, les prédictions d'audience élevées et les paris sportifs sur la rencontre nombreux, plus les sponsors se multiplieront et plus les gains seront importants. Et le vieux sportif a vu particulièrement juste. Très vite, le prix pour les droits télé explose. Les deux adversaires négocient discrètement avec un promoteur le gain pour la victoire. Et autant vous dire que nous sommes bien loin des 10 000 dollars remportés par Riggs lors de sa victoire sur Margaret Court. Cette fois-ci, le ou la gagnante empochera la modique somme de 100 000 dollars. Au-delà d'un combat idéologique, une victoire constituerait pour les deux adversaires une tranquillité économique pour quelque temps. Et notamment pour Bobby Riggs, dont une partie des gains amassés après la victoire contre Margaret Court a déjà été dilapidée dans les casinos. Il se dit que la victoire le mettrait définitivement à l'abri de ses créanciers. Il reste encore au promoteur à trouver un lieu pour le match. Cet affrontement de taille mérite un stade de taille. Les organisateurs pensent alors immédiatement à l'Astrodome de Houston. Sorti de terre 8 ans plus tôt, la 8e merveille du monde, comme la surnomment les Texans, représente le parfait théâtre pour accueillir la bataille des sexes. L'Astrodome est en terrain neutre. Loin de la Californie natale de Riggs et King, il peut accueillir plus de 30 000 spectateurs et il est flambant neuf. Dès leur mise en vente, les places pour le match Bobby Riggs-Billie Jean King partent comme des petits pains. Pendant les 4 mois qui séparent les deux matchs, pour le vieux joueur comme pour la numéro 1, un entraînement intensif doit commencer. Pour Riggs, ce sera la même préparation que pour son affrontement contre Margaret Court. Galvanisé par la correction qu'il a infligée à l'Australienne, le retraité se dit que Billie Jean King constituera au pire un combat un peu plus long et ardu, mais que rien ne pourrait le priver de la victoire. De son côté, Billie Jean a tiré les leçons du match Riggs-Court. Elle base donc son entraînement sur l'analyse du jeu du vieux tennisman et notamment sur le rythme physique. En effet, elle se dit qu'un quinquagénaire, à l'hygiène de vie discutable, ne sera pas en mesure de tenir plus d'une heure et demie sur un court de tennis. Seulement, la préparation de King va aussi connaître des complications. Effectivement, la sportive traverse un grand bouleversement personnel. Depuis quelques semaines, elle fréquente Marilyn Barnett, une coiffeuse que sa manageuse a décidé d'embaucher pour suivre Billie Jean sur différents tournois. Les deux femmes se sont rapidement rapprochées jusqu'à ce qu'une relation entre elles commence à naître. Oui, mais voilà, la tenniswoman est mariée depuis plusieurs années à Larry King, un promoteur sportif de l'Ohio. La relation entre la coiffeuse et Billie Jean King doit donc rester totalement clandestine afin d'empêcher un scandale. Mais quelques semaines avant le match contre Riggs, alors que Billie Jean était en déplacement pour un tournoi dans le Dakota. Son mari, Larry, a décidé de lui faire une petite surprise en déboulant à l'improviste à son hôtel. La championne de tennis, qui partageait son lit avec sa coiffeuse, est alors démasquée. Son mari, particulièrement choqué par ce qu'il vient de découvrir, a immédiatement décidé de demander le divorce. En effet, en 1973, les mœurs étaient écrasantes et aucune personnalité sportive de haut niveau n'avait dévoilé son homosexualité au grand jour. Si Larry fait preuve de discrétion sur cette idylle secrète afin de laisser la possibilité à sa compagne de bien se préparer pour le match, Billie Jean redoute que la révélation ne fuite dans les médias, ce qui la placerait dans une situation particulièrement compliquée. Si l'Amérique venait à l'apprendre, Bobby Riggs pourrait l'utiliser contre elle pour intensifier ses moqueries, voire pour insinuer qu'en aimant une femme, elle vaut presque autant qu'un homme sur un terrain de tennis. Autant vous dire que la Californienne doit faire en sorte que cette information ne sorte pas publiquement, tout en gérant son divorce avec Larry King. Le tout en préparant l'un des matchs de tennis les plus importants de sa carrière.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous propose de revenir ensemble sur l'un des matchs de tennis les plus invraisemblables de l'histoire. Le tennisman retraité Bobby Riggs, réputé pour son sexisme, a défié la numéro 1 mondiale de l'époque, Billie Jean King, dans ce que les médias se sont empressés de renommer la « bataille des sexes ». L'un veut prouver que les femmes n'ont pas leur place sur un court, tandis que l'autre milite pour une plus grande égalité des sexes dans le monde du tennis. Le 20 septembre 1973, l'affrontement a lieu à l'Astrodome de Houston, au Texas. Autant vous le dire, l'entrée dans le stade des deux adversaires est à la hauteur de l'événement. Dans un astrodome plat à craquer, en direct et en prime time sur ABC, devant des centaines de milliers de téléspectateurs, Riggs se présente en premier. L'entrée du Californien est théâtrale. Plein sourire, il est accompagné de 5 jeunes filles qui l'entourent et qu'il tient sous les bras. Ces jolies jeunes femmes sont habillées en pom-pom girls, dans des mini-shorts et t-shirts moulants. Sur chacun d'entre eux figure une lettre du nom de famille du tennisman, R-I-G-G-S. Bobby porte, lui, une veste de l'entreprise Tootsie Roll Industries, et ce choix n'est pas dû au hasard. En effet, ce fabricant de confiserie, basé à Chicago, s'est proposé pour être le sponsor du quinquagénaire. Il touchera donc 50 000 $ supplémentaires s'il accepte de porter une veste à l'effigie de leur friandise phare, le Sugar Daddy. L'entreprise joue sur le fait que Sugar Daddy possède un double sens. Le nom de la confiserie en question, mais également un certain type d'homme au style de vie confortable, proposant à une jeune fille de l'entretenir avec, pour contrepartie, de partager son quotidien. La foule est survoltée par l'entrée sur le court du retraité. Certains même hurlent de rire face à cette parade comique. Soudain, toutes les lumières de l'astrodome s'éteignent. Le public retient son souffle, circonspect, face à cette obscurité générale. Deux projecteurs éclairent brusquement l'entrée du terrain. Telle Cléopâtre, Billie Jean fait son entrée sur le court dans un palanquin, une chaise portée par 4 Apollons aux muscles saillants et au torse huilé. Son palanquin est orné par un immense pelage rose bonbon. Dans une foule divisée entre enthousiastes hurlant son nom et machistes imitant des bruits de poules, la numéro 1 mondiale salue le public d'un signe de main, telle une souveraine britannique. L'affrontement sportif et idéologique a donc bien déteint sur le terrain médiatique. 90 millions de téléspectateurs assiste à cette mise en scène à l'américaine, digne du Super Bowl. Une fois l'échauffement des joueurs terminé, la partie peut débuter et c'est Bobby Riggs qui sert le premier. Le premier point ne se joue qu'en trois coups. Riggs sert de manière surpuissante, surprenant Billie Jean. La tenniswoman retourne difficilement le coup, laissant ouverte toute la partie droite du court. Riggs la crucifie en envoyant la balle à l'autre bout du terrain. Immédiatement, il lève les bras comme pour signifier au public qu'il est en marche vers la victoire. Mais Billie Jean est une spécialiste des matchs à pression. C'est lorsqu'elle est face au mur qu'elle produit son plus beau jeu. Elle réplique immédiatement au deuxième point par un amorti rasant le filet, une balle impossible à retourner par le retraité qui regarde la balle rebondir et s'immobiliser sur le court. « Good girl » crie-t-il à son adversaire pour tenter de l'infantiliser et pour amuser la foule. Très vite, Riggs tente d'imposer le même rythme que contre Margaret Court en proposant un jeu haché pour déconcentrer son adversaire. Mais King reste appliquée, précise. Elle tente avant tout de fatiguer le retraité, alternant une balle à droite, une à gauche, fond de court, amorti. Au début, Riggs répond par des balles fortes pour tenter d'impressionner King par sa force physique. Seulement, le quinquagénaire ne va pas tenir bien longtemps. Figurez-vous que, quelques jours avant la fameuse bataille des sexes, Bobby Riggs a participé à un match clandestin. Il a parié avec une autre ancienne gloire du tennis qu'il le battrait d'une main tout en tenant des chiens en laisse de l'autre. Le perdant devait payer une Rolls-Royce au gagnant. Pour fêter sa victoire, Riggs est allé se saouler au bar pour le reste de la nuit. Autant vous dire que cet écart a entravé sa préparation physique et qu'il paye cette soirée arrosée face à Billie Jean. Il s'essouffle, a besoin de boire de l'eau et commence à nécessiter de plus en plus de pauses sur le bord du terrain pour récupérer. Son adversaire, elle, ne laisse rien paraître. Pourtant, la tenniswoman est en pleine rémission d'une grippe qui l'a clouée au lit toute la semaine précédente. Mais ce 20 septembre 1973, son égo aurait pu lui permettre de soulever une montagne. Bobby Riggs résiste le premier set et réussit à prendre 4 jeux à la numéro 1 mondiale. Mais les 2 sets suivants sont à sens unique. Riggs est dominé par la qualité du jeu de Billie Jean et perd le second set, 6-3. À 5-3, dans le dernier set, cette dernière s'apprête à servir pour le gain du match. Un dernier coup d'œil au public et la Californienne assène un magnifique ace à Riggs, le mettant définitivement KO. Jeu, set et match. Il est 20h17 et Billie Jean King vient de remporter la bataille des sexes. Score final, 6-4, 6-3, 6-3. Immédiatement, une centaine de femmes, issues du mouvement de libération des femmes américaines, exultent. Les deux adversaires se serrent la main juste avant qu'une horde de journalistes se jette sur eux. On les assaille de questions. Mademoiselle King, vous avez battu un ancien numéro 1 mondial et donc prouvé qu'une femme pouvait battre un homme au tennis. Comment vous sentez-vous ? Oh, je me sens comme une tenniswoman qui vient de gagner un match facile, un match de routine, réplique Billie Jean King. Devant des millions de téléspectateurs et téléspectatrices, Billie Jean King envoie un message fort à toutes les femmes sportives. Battre un homme dans sa discipline ne relève plus de l'exploit. De manière générale, les femmes ne sont pas cantonnées à la cuisine et aux espaces intérieurs, comme le sous-entendait Riggs. Elles sont également légitimes à prendre la raquette. Les retombées de la victoire de Billie Jean King sont pratiquement immédiates. Dès le lendemain, la plupart des médias se concentrent sur ce sujet. Mais le stratagème de la numéro 1 mondiale ne va pas s'arrêter là. Au lieu de fanfaronner sur les plateaux de télévision et de rabaisser Bobby Riggs, la championne demande à la chaîne ABC d'organiser une interview croisée entre les deux adversaires. La chaîne, avide de buzz, accepte sans hésiter. Lors de l'interview, King se montre particulièrement bonne joueuse, trouvant des excuses à la défaite de Riggs. Mais au-delà de ça, elle affiche une grande amicalité envers le retraité, jouant la carte de l'amitié. Cette connivence entre les deux adversaires de la bataille des sexes va permettre aux téléspectateurs d'appréhender les athlètes de tennis comme des confrères et consœurs et de petit à petit faire tomber la barrière entre son pendant masculin et son pendant féminin. Aujourd'hui encore, le tennis est l'un des seuls sports dans lequel les femmes sont quasiment aussi médiatisées que les hommes. L'apport de Billie Jean dans ce progrès n'est pas à négliger. Après cette interview, plusieurs chaînes de télévision s'octroient d'ailleurs les droits pour les différents tournois du circuit féminin gérés par la fameuse Women's Tennis Association, créée quelques mois plus tôt par Billie Jean. C'est donc ainsi que s'achève le récit de la bataille des sexes, l'un des plus grands matchs de tennis de l'histoire de ce sport. Notez par ailleurs que plusieurs autres matchs entre un joueur et une joueuse professionnelle ont eu lieu depuis. Ce fut notamment le cas en 1992 avec la victoire de Jimmy Connors sur Martina Navratilova. Billie Jean King a, elle, continué de se battre tout au long de sa carrière pour plus d'égalité dans le sport et dans le monde du tennis. En 1981, elle devient notamment la première athlète à révéler publiquement son homosexualité. Voilà pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Jules-Adam Mindras.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.